C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous. Donc on était réjouis de pouvoir vivre ce culte. Merci à l'équipe de Louange. La louange, c'est pas quelque chose de gagné pour toutes les églises. Il y a des églises qui se battent un tout petit peu pour avoir une bonne louange. Et on a vraiment du plaisir d'être là parce que vous avez une belle qualité de louange. Donc félicitations à toute l'équipe. On aime particulièrement votre église et on prie souvent pour votre église. Et on prie spécifiquement pour Diane et David, pour qu'ils reçoivent toute la bénédiction que Dieu a en réserve pour eux. On veut vraiment qu'ils puissent être richement bénis et qu'ils puissent entrer dans ce que Dieu a en réserve pour eux. Et quand on prie pour eux, on sait que s'ils reçoivent la bénédiction de Dieu, on sait que cette bénédiction de Dieu, elle va aussi couler sur l'Église. Parce que l'Église va pouvoir être bien conduite, et va pouvoir être conduite dans les chemins que Dieu a en réserve pour votre Église. Donc c'est bon, on les bénit, on prie pour eux, on aime votre région. Et je l'ai déjà dit la dernière fois, si on habitait cette région, on viendrait faire la vie avec vous. On viendrait vivre la foi, on vivrait notre foi ensemble avec vous. Ça serait notre église locale. Ce matin, j'ai envie de vous challenger parce que je crois sincèrement que Dieu a des étapes pour nous, un chemin pour chacun d'entre nous et qu'il n'a pas forcément envie de nous laisser là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pas quelque chose de comme un poids à porter sur ses épaules, mais c'est à se dire que Dieu a de plus grandes choses, que Dieu a encore de bonnes choses pour nous et qu'on est en marche avec lui. Vous croyez qu'on est en marche avec Dieu? Moi, je suis assez convaincu qu'on est en marche avec Dieu. Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre conversion, même si c'est vraiment primordial, même si c'est vraiment le premier pas, on va le voir après, même si c'est vraiment la première étape, une conversion. Mais Jésus ne s'intéresse pas qu'à notre conversion. On pourrait se dire, dans ma pensée, quand je préparais ce message, je me disais, mais Dieu, il aurait pu venir vers moi et me dire, ah, c'est super, tu t'es converti, félicitations, je suis fier de toi. C'était mon projet pour toi et j'ai vraiment envie de te dire, je suis fier de toi. Mais comme j'en ai encore beaucoup, beaucoup d'autres dans le monde à gagner, parce que j'ai vraiment envie que tous deviennent mes enfants, écoute, j'ai pas trop de temps pour toi. Ce que je te propose, c'est que tu fasses ta vie, puis on se retrouve au ciel. Puis on reprend la discussion à ce moment-là, quand on est au ciel, les deux. Oui, c'est pas ça Dieu. Hein. Il pourrait faire ça, mais c'est pas ça. Il a un chemin avec nous. C'est pas juste une conversion, puis après il n'y a plus rien derrière. Il y a quelque chose que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous et il veut que nous puissions entrer pleinement dans les bons projets que Dieu a pour nous. C'est rigolo, j'ai écrit ça. Hein. Dieu a de bons plans pour notre vie. Il a de bons projets. Vous êtes d'accord? On le sait, mais ça vaut des fois la peine de se dire, mais c'est vrai, il a vraiment de bons projets. Enfin, c'est une phrase comme ça qu'on lance tout le temps. Mais si on y réfléchit vraiment, il y a vraiment quelque chose de bon. On est tous en route. Et ce matin, j'aimerais décortiquer avec vous quelques étapes de cette vie chrétienne, ou voir un tout petit peu là où nous nous trouvons. Et j'ai prévu pour ça trois panneaux que je vais mettre. Il n'y a rien de beau dans ces panneaux, mais c'est juste pour illustrer un tout petit peu notre marche. Et là où on peut aller, ils ont juste des numéros pour dire étape 1, étape 2, étape 3. Mais parce que je crois que la vie, elle est faite un petit peu d'étapes. Et ce message, il est là pour que tu puisses te situer. Je l'ai reçu en Angleterre. On va souvent en Angleterre, et en Angleterre, les cieux, pour moi, sont plus ouverts qu'ici en Suisse. Mais c'est là que je me sens le mieux et le plus proche de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. On va dans le nord de l'Angleterre, Liverpool à côté. Et il y a véritablement, là-bas je me sens bien et Dieu me parle. Et je crois vraiment que ce message est là pour nous inviter ce matin à se dire où est-ce que j'en suis. Et peut-être, quelle est la prochaine étape que je pourrais faire? Parce que c'est intéressant de faire un petit peu un backup, de dire où est-ce que j'en suis vraiment. Puis dire, qu'est-ce que Dieu a en réserve pour moi comme prochaine étape. Alors, l'étape de la conversion. Moi, l'étape de la conversion, je l'ai vécue. Hein. Je l'ai vécue, j'étais jeune, je vous l'ai déjà raconté, mais j'ai vraiment vécu une étape de conversion qui était assez grande parce que j'ai grandi dans une famille qui ne connaissait pas Dieu. Donc, cette première étape, je l'ai vécue à l'âge de 17 ans. Dieu est venu me chercher. Il est venu me chercher et je suis heureux qu'il soit venu me chercher parce que s'il n'était pas venu me chercher, je ne serai pas aujourd'hui devant vous pour vous donner ce joli bon message. Je serai décédé. Pourquoi j'ose le dire avec quasi certitude ? C'est parce que à ce moment-là, j'allais pas forcément bien dans ma tête. J'avais des difficultés, j'étais pas heureux, la vie ne valait pas grand-chose, et je faisais beaucoup de montagnes et surtout de l'escalade. Et je prenais des risques qui étaient inconsidérés par rapport, parce que la vie ne valait pas grand-chose. Donc, pourquoi pas grimper en solo ? Puis si vous tombez, ben vous êtes mort. Mais ce n'est pas forcément grave, parce que la vie, elle ne vous tient pas trop à cœur. Et puis, les grands montagnards, j'ai rencontré Uli Steck, j'ai rencontré... J'ai rencontré Loretan. C'est tous des gens qui étaient 10 fois meilleurs que moi. Beaucoup plus. Mais vraiment, aujourd'hui, ils sont plus là. Ils sont plus là pour en parler. Ils sont plus là pour témoigner, alors qu'ils allaient bien dans leur tête, eux. Donc Jésus, il est venu me chercher à un moment donné qui était crucial. Et j'ai fait cette étape de la conversion. Et je pense qu'il y a des personnes qui... Je pense que ça vaut la peine de réfléchir un petit peu à... Et je pense qu'il y a des personnes qui se convertissent parce qu'on pourrait se dire, mais la vie, elle est quand même courte. Pour... Vous qui êtes jeune, vous pensez que la vie elle est longue, mais discutez un petit peu avec des aînés. Et vous allez voir que les aînés vont avoir le même langage. Comme la vie est la vie de passé. Qu'est-ce qu'on aimerait revenir un petit peu en arrière, retrouver nos 20 ans, retrouver notre corps de nos 20 ans, quand il y a tout qui coince le matin quand on se lève. Donc la vie, elle passe vite. On pourrait se dire, mais on n'est pas sûr que Dieu existe, 50-50, mais s'il existe, ça serait quand même bien que je sois du bon côté. Alors je me convertis. Et puis quand on se convertit, eh bien, on a surtout des envies avec Dieu, on a envie qu'il puisse être un petit peu à nos côtés, puis qu'on puisse avoir une bonne santé, de bonnes relations humaines, une vie heureuse. Je me convertis parce que j'ai envie des bénédictions de Dieu, mais je suis incapable d'aller vraiment plus loin dans ma foi. Et je vous dis, ce passage de la conversion, pour moi, il est primordial et j'en fais pas, je le rabaisse pas. Mais il y a vraiment quelque chose de plus encore qui nous attend. On aime, avec mon épouse, voir des gens touchés par Jésus. On aime voir des gens se convertir. On a donné les 30 plus belles années de notre vie pour travailler avec la RG. On était dans une super équipe avec Diane, avec David. Vous avez vu, je mets toujours Diane en premier ce matin. On pourrait changer peut-être David et Diane. Mais on a porté ensemble une œuvre qui permettait à des jeunes d'être sauvés. Et on a donné du temps. Et notre joie, notre récompense, c'était durant une immense rencontre avec plusieurs milliers de personnes, on se levait sur notre chaise et on regardait les personnes s'avancer. Et tout ce qu'on avait fait durant l'année, eh bien, c'était notre récompense, c'était notre joie. Je vois qu'il y a Éléonore aussi qui est avec nous ce matin, qui a travaillé, qui a vu ça. Merci Éléonore pour toutes tes heures. Et dans les fêtes, je réfléchissais un petit peu à cette journée de conversion, je ne me rappelle plus tellement comment ça s'était passé. Mais dans les fêtes, c'était la meilleure et la plus belle journée de ma vie. Catherine est là, elle m'a lancé une tomate, elle dit « mon mariage, notre mariage !» Oui, notre mariage était magnifique. La naissance de nos deux enfants, c'était des moments extrêmement forts. Émotionnellement, j'ai envie de dire mon mot magique, mais c'est plus que de la magie. Là. Il y a quelque chose de divin quand on accueille un enfant. Et ça a vraiment été des moments. Mais le plus beau jour de ma vie, c'est le jour de ma conversion. Ça a changé tout. Et je crois véritablement que ça vaut la peine de se convertir jeune, parce qu'on est encore en bout de chemin à faire avec Dieu, et notre vie, elle est différente. Et elle serait véritablement différente pour moi. Mais cette première ligne... Et on va le voir ensemble, on va ouvrir la Bible dans Luc 17, versets 11 à 19. L'étape 1, que je disais, la conversion, là, je crois suffisamment en Dieu et en l'évangile de Christ pour en retirer des avantages personnels. Et Luc 17, à partir du verset 11. « Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. » Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils étaient lépreux, ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus, ils n'avaient pas le droit. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez, vous montrez au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. La lèpre, c'est visible. C'est un miracle incroyable, parce que la lèpre, elle est visible. Donc, si on peut dire qu'on est guéri, c'est dire que la peau, elle s'est réparée. Il y a vraiment quelque chose qui a dû se faire, ou un doigt qui a repoussé, ou je ne sais quoi. Je ne suis pas un spécialiste de la lèpre, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » On peut prendre cette première étape. On peut vivre un matin, une soirée, on a levé la main, on a prié avec quelqu'un, on a demandé à ce que Jésus, on a dit à Jésus qu'on voulait le suivre, c'était vrai, c'était sincère, mais ensuite, la vie a repris son cours, les fréquentations, les occupations, les choix de chaque jour, et finalement, on n'a pas vraiment donné suite à cette première étape qui était la conversion. Moi, je crois que qu'on peut être sauvé sur notre lit de mort. On dit toujours lit de mort. Hein. Je ne sais pas si les gens... Mais je pense que c'est quand même là qu'on décède le plus. On ne décède pas quand on est debout, mais on est couché. Mais si vous tenez la main de la personne qui s'en va, et s'il y a une vraie... Vous arrivez encore à vivre quelque chose avec cette personne, elle est encore assez présente là, et puis qu'elle peut donner sa vie à Jésus, que vous pouvez prier ensemble, je suis archi convaincu qu'il y a une place au ciel pour elle. Mais autant je suis convaincu que si tu fais ça quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans, quand tu as 40 ans et tout ça, peut-être ta place, elle est là au ciel. Je ne dis pas que tu la perds, mais parce que tu as fait ce passage de la conversion quand même. Mais ce que je crois au plus profond de moi, c'est que Jésus a plus, que Dieu a plus, qu'il y a vraiment un chemin pour nous, une bénédiction de marcher avec lui et de le vivre quelque chose avec Dieu. Dieu ne veut pas seulement une main levée en soir à l'église. Il veut une vie entière levée pour lui. C'est beau ça, hein ? Ça, c'est du ChatGPT. La conversion est une porte d'entrée, pas une ligne d'arrivée. Deuxième phrase sympa. La deuxième étape... Je suis prêt à observer les commandements de Dieu aussi longtemps que cela ne me coûte pas trop. Alors moi, Yves Matet, j'ai passé la première étape de la conversion. La deuxième étape, je l'ai aussi franchie. Et je vais être honnête avec vous, je suis entre cette deuxième étape. De temps en temps, je franchis la troisième étape. Mais paf, quelquefois, je reviens quand même là. Et on va le voir un petit peu, qu'est-ce que sont ces deux étapes. Quand tu passes cette deuxième étape, tu rentres déjà plus dans ce que Dieu aimerait vivre avec toi. Tu as l'habitude de prier, tu as l'habitude de lire ta Bible. Tu vas dans une église que tu appelles ton église, c'est pas mal ça. Je ne crois pas qu'on peut être chrétien sans église. J'ai beau tourner la chose dans tous les sens, je suis archi convaincu que Dieu nous a donné une famille. Alors ça peut être la famille Passion, ça peut être une autre famille. Ce n'est pas lié à cette église-là, c'est lié avec l'église avec un grand E, mais plus qu'un grand E quand même, une église locale. Et si tu fais tes jeunes, tu fais partie d'un groupe de jeunes et ça devient ton groupe de jeunes. Et j'irais même plus que ça, c'est le meilleur groupe de jeunes de l'univers. Si tu penses ça, tu es dans le bon, tu es dans le juste. Mais on n'est pas forcément toujours prêt à payer un prix fort par rapport à notre vie de chrétien. Je vous donne un exemple qui n'est pas trop en ma faveur, qui ne m'honore pas tellement. Un jour, je passe du temps avec Yves Boulondoué. Yves Boulondoué, c'est le fondateur de deux ou trois églises maintenant, qui s'appelle Home Lausanne. Et un jour, je passe du temps avec lui. Donc nous, on le connaît bien avec Catherine. J'ai développé la formation Jeunesse Ensemble. On a développé la RJ. C'est lui qui a repris la RJ maintenant. Donc il y a vraiment une amitié qui est forte depuis plusieurs années. Et puis, il vient vers moi et il me dit « Est-ce que tu serais d'accord de cheminer avec moi, de faire la vie avec moi, de m'aider, en quelque sorte, de me donner des conseils, mais de rejoindre l'église que j'ai envie de fonder ?» Donc, c'est super honorant. En plus, je connais Yves et puis on sait ce qu'il va devenir. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent. La première réaction que j'ai eue, moi, je lui ai dit, à quelle heure sera ton culte ? Je n'ai pas dit, je vais prier, je n'ai pas dit, ah, ça me... j'ai rien dit. J'ai dit, quelle heure sera ton culte ? Il m'a dit, 17h. J'ai dit, ah, ça, ça me parle, je viens. Il m'aurait dit 10h le matin, j'aurais hésité. J'y serais peut-être allé, mais j'aurais hésité fortement parce que le culte à 17h, je le trouve trop cool. Le matin, on fait du vélo, on va se balader, on fait quelque chose. Puis le soir, on se trouve et on finit notre semaine dans la présence de Dieu. C'est bon. En fait, je n'ai pas tellement réfléchi. Je voulais d'abord, c'était d'abord un petit peu moi. Où est-ce que j'en suis, moi ? Et puis des choses qui étaient importantes pour moi, j'ai réfléchi très humainement en répondant. Parce que moi, j'aime... avoir des week-ends où je pars en moto, où on fait du voilier, où on est en montagne. Mais tout cela, ce n'est pas tellement spirituel. Mon petit confort d'abord. Je suis OK de servir Dieu si ça ne me coûte pas trop. Si ça commence à me coûter, je commence à mettre des guillemets. Donc, au-delà de cette première ligne, la deuxième, hein, nous trouvons des chrétiens qui croient suffisamment en Dieu, non seulement pour recevoir, mais aussi pour donner en retour. Mais il ne faut pas que cela nous coûte trop, je l'ai dit. Si je ne dois pas trop changer, je ferai certaines choses que Dieu me demande. Si cela ne me fait pas trop mal, je serai sérieux dans la foi. Quand on est jeune, et puis qu'on a nos yeux et notre cœur qui commencent à palpiter pour un conjoint ou une conjointe, et puis qu'on commence à tomber amoureux, et puis qu'on tombe amoureux d'une personne qui ne connaît pas Dieu, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, puis je ne dis pas que c'est faux à 100% de faire ce genre de choses. Mais j'ai quand même l'impression que Dieu, dans la majorité des cas, il a un autre plan pour nous. Et c'est là qu'on est vraiment challengé. Je vis ma foi, elle me coûte. Est-ce que je suis d'accord de prier, de passer du temps avec un pasteur ou avec quelqu'un d'expérience, puis de remettre un tout petit peu ce qui se passe dans mon cœur, et puis peut-être même de dire non, je ne vais pas sur ce chemin-là. Quand on est amoureux, ça coûte. Hein. Quand notre cœur s'est emballé, ça coûte. Puis dire non, je vais attendre ce que Dieu a en réserve, parce que la personne a reçu que ce n'était pas forcément la meilleure des idées, puis qu'il y aurait peut-être quelque chose de meilleur qui s'en viendrait. Nous sommes régulièrement confrontés à des choix, et parfois nous ressemblons fort à un jeune homme riche qu'on trouve dans Matthieu 19. Alors un homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Lui répondit Jésus, un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels ? Demanda l'homme. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, mais tout cela j'ai déjà fait, ça marche. C'est chouette, moi j'aimerais... Ouais, c'est bien. Tout cela lui dit... Je l'ai déjà appliqué, que me manque-t-il encore ? Et Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends tes biens, distribue le produit de tes ventes aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Je suis prêt à observer les commandements de Dieu aussi longtemps que cela ne me coûte pas trop. Je suis OK d'aller, moi je parle pour moi, hein, mais... Ça pourrait résonner chez vous d'une autre manière, parce que vous avez une expérience et des choses qui vous touchent vous-même. Mais moi, je suis OK d'aller à l'église de temps en autre quand les conditions de montagne ne sont pas bonnes. Et franchement, c'est facile de dire à Catherine, écoute, ce dimanche, les conditions sont bonnes, je vais aller en montagne. Catherine, elle est sur les réseaux sociaux, elle sait les dangers de la montagne, le lac Guinorn, la semaine passée, ou il y a quelques jours en arrière, la montagne est-elle maudite ? 4 jours différents, 4 décès. C'est un sommet que j'ai fait 3-4 fois, etc., etc. Donc il y a plus de 30 ans qu'elle me voit faire mon sac, même si aujourd'hui j'en fais moins parce que j'ai pris de la pancha, là, pris un peu dur, là, puis parce que j'aime moins souffrir. Qu'avoir un cœur qui a 170 pendant 5, 6, 10 heures, il a de la peine ce cœur-là. Donc j'en fais moins. Mais elle sait, elle a vu faire mon sac, mais elle va être d'accord avec ça. Puis des fois, nous, on aime aller. Il y a plein de choses qu'on aime faire. Et puis, ben, des fois, ça nous coûte. Quand les gens m'invitent pour aller prêcher, je leur dis toujours, vous avez quelque chose au mois de novembre ? Mais oui, parce qu'il n'y a pas de moto au mois de novembre. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de montagne. Au mois de les montagnards, au mois de novembre, ils ouvrent les topos, puis ils préparent leur l'année qui vient. Mais ils ne sont pas en train d'aller parcourir la montagne. Et là, il m'a proposé en mois d'août. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, quand même. Puis après, j'ai réfléchi à deux choses. Je me dis, ça serait bien quand même de rendre service de temps en temps. Ça, c'est bien. Puis après, je me suis dit, mais il y a chez lui des palmiers. Et je crois que chez eux, il y a aussi un endroit où on peut boire un petit verre après sous des palmiers. Je dis, ça, c'est pas mal. Le message est passé. Hein. Non, mais je suis OK d'aller à l'église pour autant que ça n'empiète pas trop sur mes petites passions. Je suis OK de donner ma dîme parce qu'aujourd'hui, j'ai un bon salaire et de toute façon, il va me rester quelque chose, mais ça ne me coûte pas trop. Je suis OK d'aller dans une cellule de maison parce que chez nous, à Home, les cellules de maison, c'est sept semaines de suite. Puis après, il y a une pause. Puis après, on peut se réengager. Ce n'est pas une cellule où on va et puis pendant 15 ans, on est avec les mêmes personnes et puis on finit avec les mêmes petits biscuits à 10h30 avec du thé. Donc, il y a une liberté qui est là. Et cette liberté, elle me plaît et j'aime là. Mais Dieu me dit, mais il y a peut-être plus quand même. Et cette deuxième étape, elle est subtile. Hein, parce que là, je parle de choses comme ça, mais elle est quand même subtile. Parce qu'on vit dans cette deuxième étape en aimant Dieu et en croyant en Dieu et on fait quelquefois comme s'il n'existait pas ou il n'était pas véritablement avec nous. On continue à se faire du souci. Mais le souci, c'est Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Puis il le redit. Des fois, je me dis, là, Alzheimer, ce qu'a écrit Matthieu 6. Ça revient encore. Essayez, lisez. Si vous ne savez pas quel chapitre de la Bible lire la semaine qui vient, ouvrez Matthieu 6. Et vous verrez véritablement qu'il y a un engagement à ne plus se faire du souci. On peut vivre et avoir une certaine confiance parce qu'on a un salaire. Mais Dieu pourrait nous appeler, je pense que c'est bien d'avoir un salaire, hein, mais ma confiance, est-ce qu'elle est dans la capacité que j'ai d'acquérir un salaire, de gagner un salaire, ou elle est, quoi qu'il arrive, j'ai confiance en Dieu pour ma vie. C'est subtil, c'est compliqué à expliquer, mais je trouve que c'est... Ouais. Il y a quand même un petit peu de subtilité là-dedans. Et puis, il y a souvent malentendu, c'est qu'on a l'impression, moi j'ai envie d'être heureux. Et vous pensez que Dieu veut que vous soyez heureux ? Moi je le crois vraiment. Mais je crois que le bonheur, il n'est pas lié à une belle voiture, à une belle maison, à de nouvelles belles lèvres. Je travaille avec 400 personnes dans une entreprise. Sur les 400 personnes, il y a 40 personnes qui ont passé à la chirurgie esthétique et qui ont des lèvres qui sont plus moches aujourd'hui qu'elles étaient avant. J'espère que mes collègues ne m'entendent pas. Plus d'amis, plus de voyages, plus de vacances, trouver le conjoint parfait, gagner au loto, avoir le dernier PC avec une carte graphique surpuissante pour pouvoir faire des jeux vidéo. Et si tu penses que ça va t'apporter ton bonheur, eh bien, tu as juste franchi cette deuxième étape, mais en tout cas pas la troisième. Parce que je crois vraiment que Dieu n'est pas juste, on n'aime pas Dieu juste pour ce qu'il nous apporte. Je crois même que si on n'avait pas ces choses-là, on devrait l'aimer tout autant. Au lieu de reconnaître que notre rôle est de le servir, nous croyons qu'il désire notre bonheur par-dessus. Nous pensons par la même occasion qu'il est là pour nous servir, et là, on se trompe. On est en train de servir un Dieu qui est trois fois saint, qui est le créateur de l'univers. Et ce créateur de l'univers, il se change un tout petit peu en distributeur de bénédictions. Si je donne assez d'argent, si je fais la bonne prière, si je vis de la bonne manière de faire, si je distribue... Ouais, si je fais tout bien juste, eh bien, il y aura une bénédiction qui s'ensuit. Je crois que la bénédiction s'ensuit. Mais la vie, ce n'est pas un fleuve tranquille pour personne. Et les difficultés, elles sont là et elles vont arriver. Si vous n'en avez jamais encore eu, je peux sans prophétiser que des difficultés vont arriver. C'est normal. Donc, il y avait véritablement quelque chose de bon là-dedans. Pensez-vous qu'un poisson peut être heureux sur une plage de sable ? Voyez ce beau poisson ? Est-ce qu'il est heureux ? Moi, je pense clairement qu'il est malheureux. Vous êtes d'accord avec ça ? La première chose que je pourrais me dire, mais ce poisson, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Donc il faut que je sorte mon porte-monnaie. Et puis, si j'y sors un billet à ce poisson, vous pensez que ça va le rendre heureux? J'y donne 50 euros. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai 10 euros. Je donne 50 euros. Vous pensez que le poisson va être heureux? Ça va le réjouir? Moi, je ne suis pas vraiment sûr que ça marche. Ce n'est pas ça qu'il a véritablement besoin. Je pourrais réfléchir puis penser à la pyramide de Maslow. Je me dis, mais il a soif. Il a soif. Hop! Qu'est-ce qu'on boit quand on a soif? On boit une petite bière. Donc, j'ai des capsules, puis j'ai une petite bière. Je ne suis pas sûr qu'il soit heureux. Puis pour repenser, on me dit, oh, mais il s'embête là sur ce sable. Il lui faut une bonne revue d'alpinisme. Ça va lui changer les idées. Donc, on va lui offrir une petite revue. On est d'accord. On n'a pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études en sciences animales ou en médecin pour animal, donc ça veut dire vétérinaire, à Berne, en allemand, voire en suisse allemand, pour savoir que ce poisson, il n'est pas bien. Et il en va de même exactement pour nous. Les choses de ce monde ne peuvent pas nous rendre heureux. Foncièrement heureux, les choses de ce monde ne nous rendront pas. On n'y arrivera pas. Et il y a un texte de la Bible qui nous dit « Nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Nous avons été créés pour demeurer éternellement avec le Seigneur dans les cieux. Nous ne trouverons jamais le bonheur durable dans les choses passagères de ce monde parce qu'on n'a pas été créés pour une vie éphémère. » Les amis, on a été créés pour passer une éternité avec Dieu. Et s'il faut mettre de l'énergie, c'est dans cette relation avec Dieu. C'est dans cette amitié avec Dieu. Alors la troisième ligne, je crois suffisamment en l'évangile de Christ pour abandonner toute ma vie. Et il y a, je crois véritablement, une notion d'abandon, une notion, quand on est ici, de confiance totale. Et quand j'ai pensé à cette étape, il m'est venu des versets qui me dépassent et qui vont au-delà de ce que je peux vivre aujourd'hui, moi, parce qu'ils sont assez... Il y a comme une certaine violence dans ces versets. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que pourra donner en échange un homme en échange de son âme? Suis-je prêt à perdre ma vie? Est-ce que je suis content de vivre dans un pays où il n'y a pas trop de persécution? Parce que les gens qui sont persécutés, ça c'est une vraie question pour eux. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Puis-je renoncer à mes désirs, mes espoirs, mes rêves? Acte 20, mais je n'y attache aucune importance. Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que j'accepte, peu importe ce que cela me coûte, de ne pas considérer ma vie comme précieuse et d'exister uniquement pour faire ce que le Seigneur a en réserve pour moi? Philippiens 3:8, je ne considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout comme cela, comme des ordures, afin de gagner Christ. Puis-je vraiment considérer tout cela, tout ce que je possède sur la terre, comme une perte et faire de Christ mon bien le plus précieux? C'est violent, hein? Ça remet l'église au milieu du village, j'ai envie de dire. Ouais. Et ce Christ sinon rien, j'aime ce terme, ce Christ sinon rien. Et moi, j'ai véritablement envie d'avoir une vie quelque peu différente. J'ai 55 ans, ça fait quelques années que j'essaie de grandir en Dieu. Mais je ressens quand même un appel, je ne sais pas si c'est à cause du monde qui tourne mal ou quoi, mais je ressens véritablement une envie de grandir. Je n'ai pas envie de rester là où j'en suis. Je veux plus de Dieu dans ma vie. Je veux chercher Dieu plus que des produits de remplacement. J'ai envie que Dieu devienne mon tout. Et je ne suis pas en train de dire que les passions ou les choses que Dieu nous donne, ce n'est pas bon. Je suis archi convaincu que Dieu m'a donné la passion de la montagne. Je ne sais pas si ça venait vraiment de lui, mais en tout cas, il a accepté que j'aie cette passion-là, ça c'est sûr. Et parce qu'il s'il me l'avait demandé de le déposer sur l'autel, la montagne, l'alpinisme, l'escalade, je l'aurais fait. Pourquoi ? Parce que quand je pars en montagne, j'ai besoin d'avoir une conviction profonde. Je peux mourir demain, ça n'empêche rien, ça. Mais j'ai quand même une conviction profonde quand je pars que Dieu me donne le feu vert. Si je commence à mal dormir la nuit, si je commence à avoir des trucs qui ne vont pas, je ne vais pas partir. Parce que moi, j'ai envie de vivre ma passion en regardant Jésus qui sourit et qui est heureux de me voir vivre ma passion. Donc, ce n'est pas contre les passions, mais c'est là où je mets véritablement Dieu dans ma vie. Vous savez, et je crois que le choix nous revient. Et j'avais cette pensée-là, j'avais cette pensée que la vie, elle est courte, et puis qu'on laisse, on va laisser quelque chose peut-être sur la terre, mais on va quand même être assez vite oublié. Là, je m'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Si vous vous embêtez dans un repas de famille, lancez une discussion sur vos aïeux. Parce que vos parents, vous les connaissez. Vos grands-parents, vous les connaissez. Vos arrière-grands-parents, c'est plus compliqué. Puis vos arrière-arrière-grands-parents, c'est très difficile. Arrière-arrière-grands-parents, grands-parents, parents, arrière-arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, parents, moi je parle, 4 générations. Mais 4 générations, c'est 25 ans par génération, c'est 100 ans. Donc si vous commencez à discuter avec votre famille, qu'est-ce que faisait mon arrière... Comment s'appelait le prénom de mon arrière-grand-mère ? Pas sûr que vous le sachiez. Puis après, on pourrait dire qu'est-ce qu'elle faisait comme travail. Alors là, vous êtes intelligent. Hein ? À l'époque, elle était femme au foyer. Là, vous marquez un point. Puis après, on vous questionne, mais qu'est-ce que faisait son mari ? Plus difficile. Puis après, vous continuez la discussion, puis vous discutez, mais c'était quoi sa passion ? C'était quoi son repas ? Je ne sais pas si on a des passions à ce moment-là. La passion, c'était pouvoir manger puis nourrir ses enfants. Puis que tout aille bien, peut-être, parce que la vie était plus dure. Mais peut-être, vous pourriez lui demander, mais c'était quoi son repas préféré ? Est-ce qu'elle a eu une fois des vacances ? Et puis où est-ce qu'ils sont partis ? 100 ans, hein ? Plus aucun souvenir. Aucune compétence de répondre à des gens qui ont vécu juste 3 générations avant vous. Donc, dans 100 ans, on ne saura plus qui on est. À moins que vous appeliez et que vous fassiez quelque chose de grand dans la vie, puis qu'un jour, il y a une plaque sur une rue, et puis qu'une rue porte votre nom. Mais si vous êtes comme moi, le commun des mortels, on ne se rappellera plus de nous. Ça vaut la peine d'investir pour l'éternité. Hein ? Moi, j'ai envie d'investir pour l'éternité. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de bon à investir pour l'éternité. Et je vais conclure mon message avec une photo et je vais vous demander si vous savez qui est cet homme. Ça aurait pu, mais non. Charles Blondin. Charles Blondin, c'était un grand funambule. C'est une des personnes légendes du sport qui est la funambulie. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais c'était véritablement quelqu'un de très doué. Aujourd'hui, on parle de slackline, les alpinistes en font un petit peu, on voit des cordes qui sont tendues ou des sangles qui sont tendues entre des montagnes à des hauteurs incroyables. Lui, il a tendu une corde de 300 chanvres, de 300 et quelques mètres, entre deux points pour traverser les chutes du Niagara. Et il était tellement doué qu'il n'était pas juste sur sa ligne avec son grand bâton pour garder l'équilibre, mais... Il a pris des photos. Vous savez ce que c'est prendre une photo à cette époque-là, sur un fil comme ça, à 300 mètres ? C'est pas juste sortir son iPhone et puis avec une perche pour faire son selfie. Hein. Une photo dans les années 1858, c'est un peu plus compliqué. On a encore l'image hein, de ces vieux appareils photo qui pèsent 1,5 tonnes. Donc il a fait plein de belles choses. Et à un moment donné, il avait une brouette et il a traversé ces chutes du Niagara avec une brouette sur ce fil. Je vous ai amené une brouette. Il a amené une brouette, il a fait ça. Et après, il y a quelqu'un dans la foule, et 12 000 personnes aux chutes du Niagara. 12 000 personnes en 1800 et quelques. Ça fait pas mal, hein. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans la foule qui a dit « Ouais, tu serais capable de mettre quelqu'un dans ta brouette et de le faire avec quelqu'un dedans ?» Et Charles Blondin a dit « Oui, qui vient ?» Et il n'y a personne qui a levé la main, il n'y a personne qui s'est avancé, il n'y a personne qui a voulu monter dans cette brouette. Et cette brouette, c'est un petit peu notre vie. On peut la tenir, on peut aller un petit peu où est-ce qu'on veut avec, on peut tenir les poignées, là je ne prends pas à cause de mon micro, mais on peut vraiment tenir les poignées de cette brouette et décider d'un petit peu de conduire notre vie à notre sauce. Ou alors, on peut décider de monter dans cette brouette. Parce que celui qui tiendrait les bras de cette brouette ou les poignées de cette brouette, ce n'est pas Charles Blondin, mais c'est Dieu. Est-ce que tu es d'accord de monter dans cette brouette et de faire véritablement confiance à Dieu pour toute ta vie, pour tout ce qu'il a en réserve pour toi, et de passer ces différentes étapes et de ne pas rester coincé à la première étape? Elle était bien, tu as peut-être ta place au ciel, mais ce n'est pas suffisant. À une deuxième étape où tu te dis chrétien, mais tu vis des fois un petit peu comme si Dieu n'existe pas, tu fais confiance à tes propres ressources, à tes propres capacités. La vie, ouais, t'as un petit peu de la peine à faire confiance à Dieu pour certaines choses. Ou alors véritablement de monter, de passer cette troisième étape, de monter dans cette brouette et dire à Dieu, je te donne tout. C'est toi mon tout. Si tu es avec moi, je serai bien. Et je crois véritablement que pour être heureux en tant que chrétien, il faut qu'on puisse passer dans cette troisième étape. Et la vie deviendra beaucoup plus légère parce qu'il y aura une confiance absolue dans ce Dieu qui veut des bonnes choses pour nous. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour les personnes qui sont là devant moi. Je te demande vraiment ta bénédiction. Tu connais chaque personne et tu connais les étapes, là où elles en sont. Puis tu connais peut-être, tu connais pas peut-être, tu connais avec certitude là où tu aimerais les amener. Et Seigneur, je prie que durant cette semaine, elle puisse réfléchir peut-être à un pas de plus qu'elle pourrait faire et qu'elle puisse te donner la main pour que tu puisses les aider à franchir ce pas de plus et d'être plus proche de toi, d'être plus en toi, d'être plus à l'image de ce que toi, tu as envie qu'elle soit. J'aimerais bénir les personnes qui sont là devant moi ce matin, demander ta main de bénédiction sur elles et je vais proclamer que tu es celui qui va les amener, les prendre par la main et les conduire dans un pas de plus. Tu connais toutes les personnes, tu connais là où elles en sont. Et Seigneur, on veut te faire confiance. Et je veux te dire aussi que je te fais confiance pour ma propre vie. Parce que moi, j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Amen. Amen.